Je me trouve dans les locaux de la LPO Bretagne, la Ligue de protection des oiseaux, presque dans le centre de Locminé, juste à côté de la station service de bio-GNV, de gaz naturel. Donc on est dans les locaux de la LPO. Je suis avec Corentin Morvan. Donc on l'a dit, la LPO, Ligue de protection des oiseaux, c'est un nom qui, a priori, est assez clair. Mais pour autant, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une association?
C'est ça, c'est une association nationale. Et du coup, on travaille sur l'ensemble du territoire. Donc là, nous, on est la LPO Bretagne et on travaille donc aussi bien sur les oiseaux que sur la biodiversité en général.
Et comment elle est née cette association et quand?
Alors elle est née en 1912, c'était pour protéger le macareux, le fameux macareux moine des Sept-Îles, donc qui était chassé. Les Parisiens venaient pour faire du tir à la carabine sur les macareux et donc c'est là où la LPO est née pour protéger cette espèce.
Ce macareux moine, c'est bien lui qu'on retrouve sur le logo bleu, noir et blanc de la LPO?
C'est ça. C'est devenu le symbole et le macareux moine niche toujours aux Sept-Îles, donc avec plusieurs centaines de couples. Donc la LPO a bien travaillé déjà à ce sujet.
Et donc c'est une structure qui est organisée géographiquement et localement. Là, en l'occurrence, c'est la LPO Bretagne.
C'est ça, du coup, alors la plupart des salariés sont basés sur Rennes, donc on a 6 salariés dans des locaux à Rennes, donc avec des animatrices et plusieurs chargés d'études. Et ici, à Locminé, donc c'est une nouvelle antenne, donc c'est antenne Bretagne Sud, qui a ouvert en mai dernier. Et donc pour l'instant, je suis avec un service civique et bientôt une nouvelle animatrice qui devrait nous rejoindre prochainement.
Donc là, si on récapitule un peu, cette antenne de Locminé, elle concerne quand même un territoire assez conséquent.
Oui, en gros, on circule sur l'ensemble du Morbihan, le Finistère Sud, jusqu'à Quimper. Donc là, je vais aussi un peu dans le sud des Côtes d'Armor.
Alors justement, Corentin Morvan, quel est votre métier exactement?
Alors à la base, je suis donc chargé d'études pour la LPO. Donc je fais des inventaires aussi bien pour les oiseaux, des inventaires entomologiques, donc papillons, libellules, orthoptères, donc c'est les grillons, sauterelles, criquets. Et d'autres collègues de Rennes font des inventaires botaniques, on fait des inventaires chiroptères aussi, donc les chauves-souris. Et donc c'est vraiment dans les refuges LPO des communes ou des entreprises, on fait un état des lieux en recensant vraiment toute la faune et la flore sur les refuges. Donc ça, c'est une de nos principales missions. Et sinon, après, il y a le volet sensibilisation du public, donc essayer un peu de montrer toute cette nature au grand public lors d'animations ou d'événements comme la Nuit de la Chouette qui en mars prochain, donc où c'est un grand événement national, où on va essayer de faire découvrir un peu le peuple des oiseaux nocturnes courant du mois de mars.
Alors on a parlé de refuges LPO dans des communes ou alors des refuges qui appartiennent à des entreprises. Alors qu'est-ce que c'est exactement un refuge et comment un espace, un lieu devient refuge LPO?
Alors n'importe quel particulier peut être refuge LPO, donc ça c'est une adhésion auprès de la LPO, donc c'est lors d'une 30-40 euros. Et donc ça, on dit que dans notre jardin on protège la nature, donc on n'utilise pas de produits pesticides, on n'autorise pas la chasse et puis on fait des actions en faveur de la biodiversité. Au niveau des communes et des entreprises, donc c'est plus ou moins la même chose. Alors n'importe quelle entreprise ne peut pas être refuge LPO, il faut répondre. Donc il y a la fameuse charte, pas de pesticides, pas de chasse et faire des actions en faveur de la biodiversité. Mais donc on a une sorte de convention sur 5 ans où on fait un état des lieux. La première année, donc on va faire les inventaires de la faune et de la flore. Et on va leur proposer des mesures de gestion pour améliorer le site. Donc on va leur conseiller, ce serait bien de creuser une mare, ce serait bien de faire un muret en pierre sèche, ce serait bien d'enlever telle espèce invasive, donc s'il y a de la renouée du Japon, s'il y a le buddleia aussi, un arbre qu'on essaye d'éradiquer. Donc suite à ces mesures, à ces préconisations de gestion, ils ont 4 ans pour travailler, donc on travaille ensemble, pour améliorer le refuge. Et au bout de la cinquième année, on refait des inventaires et on leur dit, bah, voilà, grâce aux préconisations, on a gagné tant d'espèces et la biodiversité s'enrichit sur le site.
Donc Corentin Morvan, on comprend bien que la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, cherche à développer, à faire part des bonnes pratiques, justement pour veiller à ce que les espèces soient protégées, voire peut-être puissent se développer. Est-ce que vous travaillez également beaucoup sur les risques, peut-être les prédateurs? On entend parfois parler des chats domestiques, notamment, qui peuvent être un prédateur important pour les oiseaux.
Alors le chat, c'est une problématique un peu compliquée, parce que c'est vrai que c'est un animal qui est bien vu par tout le monde. Donc oui, il cause des gros dégâts. On essaye de... Alors nous, à notre niveau, on peut pas faire grand-chose à part prévenir les gens qu'il faut essayer au maximum, on peut mettre une petite clochette sur le collier du chat, on peut faire différentes actions, mais c'est vraiment pas évident à convaincre la population. Donc il faudrait aussi des campagnes de stérilisation. Donc ça a été mené pas par la LPO mais sur l'île de Molène, parce que les chats mangeaient beaucoup d'océanite tempête, donc c'est un petit oiseau marin, et il y a eu des gros soucis à cause des chats, normalement, notamment qui venaient se nourrir de ces oiseaux-là en période de nidification, alors que c'est une espèce inscrite sur la liste rouge des oiseaux de France et qui se porte vraiment pas très bien. Donc à notre niveau, pour les chats, à part faire de la sensibilisation, on peut pas vraiment intervenir.
Concernant la sensibilisation, concernant ce que tout à chacun peut faire ou non dans son jardin, on voit passer aussi différentes choses sur la nourriture que l'on peut mettre pour les oiseaux. On peut même comprendre que parfois on essaie de le faire mais que ça peut être contre-productif. Qu'est-ce qu'il en est exactement ?
En Bretagne, c'est pas nécessaire de nourrir les oiseaux parce qu'il fait pas vraiment froid. Bon, cette année, il y a un peu eu plus de gelée et un petit peu de neige, donc là, ça pouvait être intéressant. Mais là, il fait déjà 12 degrés, il y a des mouches qui volent, donc c'est vrai que c'est pas obligatoire. Après, il faut vraiment éviter de nourrir en période de nidification. Donc la plupart des oiseaux, les mésanges, tout ce qui vient à nos mangeoires, se nourrissent d'insectes en période de nidification. Et donc, ils nourrissent les jeunes avec des chenilles, des papillons, tout ce qu'ils trouvent dans la nature. Et si on continue à les nourrir avec des graines, eux, c'est un peu des feignants, donc ils vont aller nourrir les jeunes avec les graines qu'ils vont trouver à la mangeoire. Et donc, ça peut provoquer des carences alimentaires et des soucis dans la reproduction. Donc, on conseille vraiment aux gens d'arrêter de nourrir au maximum en mars et de reprendre aux premières gelées en novembre.
Et quand on nourrit les oiseaux, qu'on met à disposition de la nourriture dans notre jardin, est-ce qu'il y a certaines choses à éviter au niveau du matériel et peut-être tout simplement au niveau de la nourriture ?
Alors, il faut faire très attention aux maladies, parce que du coup, les mangeoires, ça concentre les oiseaux. Des fois, il y a vraiment des groupes importants de pinsons, de verdiers. Donc, il faut au mieux nettoyer la mangeoire une fois par semaine et essayer de quitte à changer de mangeoire, même courant de l'hiver, pour éviter vraiment les maladies. Après, au niveau graines, chaque oiseau a un peu sa préférence. Donc, les graines de tournesol, c'est ce qui marche le mieux pour les verdiers, les pinsons, les mésanges. Mais après, il y a des petites graines, des graines de millet pour les chardonnerets. Donc après, c'est à chacun de voir ce qu'il veut attirer dans le jardin aussi. Mais après, il suffit de même balancer ses pommes pourries. Ça peut attirer les grives, les fauvettes. Donc, surtout pas du pain, par contre. Le pain, c'est pas bon pour les oiseaux. Donc c'est trop salé, ça s'imbibe après dans leur estomac. Et c'est vraiment pas bon. Même pour les canards, il faut éviter de nourrir avec du pain.
Et je repense au chat, est-ce qu'il peut y avoir aussi parfois l'effet piège selon l'endroit où on met cette nourriture qui attire des oiseaux, mais qui peuvent justement permettre au chat d'avoir des proies faciles?
Alors, donc pour le chat, il faut essayer de mettre une clochette sur le collier du chat pour qu'il se fasse entendre et qu'il ait moins de chances d'attraper les oiseaux. Et après, l'idéal, c'est la mangeoire, vraiment la mettre au milieu du jardin. Donc les oiseaux ont le temps de voir le chat arriver et ont le temps de décoller. Et pour les nichoirs et les mangeoires, on peut mettre aussi une protection sur l'arbre. Donc c'est un système qui empêche les chats de grimper dans l'arbre. Donc une sorte de grillage. Après, ça, tout le monde peut le bricoler avec des restes de grillage. Et ça empêche le chat de venir se nourrir directement dans le nichoir à oiseaux quand il y a les jeunes, par exemple, au printemps. Mmh.
Radio PEPA.
Radio Broadway-Net.
Corentin Morvan, on a compris que votre métier consistait notamment ou en grande partie à répertorier, à inventorier les différentes espèces que l'on pouvait trouver sur le territoire. Est-ce que ça veut réellement dire que vous, votre quotidien, c'est beaucoup de terrain ?
Alors c'est beaucoup de terrain, surtout en printemps-été, et après donc c'est de la rédaction parce qu'on a aussi un compte rendu, on fait des rapports sur les résultats des refuges, sur un peu tous nos résultats. Et après la phase de terrain, on fait aussi des comptages hirondelles. Donc les hirondelles se portent aussi assez mal, donc avec moins 30% des effectifs ces 10 dernières années, donc c'est assez important. Donc on travaille avec des promoteurs immobiliers ou avec Bretagne Sud Habitat pour, lors de travaux, on vient estimer le nombre de couples qui se reproduisent sur les bâtiments et on met en place des mesures compensatoires et on compte les hirondelles sur l'ensemble de la commune. Donc ça va être le cas sur Locminé, ça va être le cas sur Arzal, sur plusieurs localités du Morbihan. Et donc on est notamment aidé par nos bénévoles qui sont très actifs au sein de la LPO Morbihan, et donc on peut compter sur eux pour nous aider à compter toutes ces hirondelles justement sur le territoire du Morbihan.
Concrètement, que ce soit un bénévole ou un salarié de la LPO, de la Ligue de Protection des Oiseaux, la LPO Bretagne, comment ça se passe? Comment on fait pour compter les oiseaux?
Alors ça dépend des espèces. Donc là, ce week-end, donc le 30 et 31 janvier, il y a le grand comptage national des oiseaux des jardins. Donc là, tout le monde est invité à compter les oiseaux dans son jardin, à la mangeoire, pendant une heure. Donc là, pour compter, il faut pas compter l'aller-retour de la mésange bleue qui vient à la mangeoire et dire « Ah bah, il y a 50 mésanges bleues ». Il faut vraiment compter le maximum à l'instant T. Donc si au maximum on a vu 4 mésanges bleues ensemble, on mettra « Il y a 4 mésanges » lors de ce comptage oiseaux des jardins. Après, pour le comptage des hirondelles, on parcourt avec les bénévoles toutes les ruelles de la commune et on saisit nos observations sur l'application Naturaliste. Donc c'est une application sur le smartphone et l'ensemble des données remonte sur Faune Bretagne. Donc c'est une grosse base de données qu'on a entre toutes les associations, donc Bretagne Vivante, Geoca, Vivarmor, le groupe mammologique breton. Et sur cette base de données, on arrive à 4 millions de données, donc c'est vraiment une grosse base très importante. Et nous, on utilise beaucoup ces données pour notre travail, aussi bien sur les refuges, pour les comptages et pour l'ensemble de nos missions.
On le comprend, ces données sont très importantes, elles peuvent conditionner des actions futures, mais quand on est bénévole, on suppose que la plupart sont passionnés, ou alors ça peut être sans doute par conviction également, sensible à ces questions-là. Est-ce que ça veut dire que vous les accompagnez, vous les formez, ces bénévoles ?
Alors on fait des formations pour la saisie des données sur l'application Naturaliste, on fait des formations pour la saisie des données directement sur le site Faune Bretagne. Après, ils sont invités à nous accompagner sur le terrain aussi. On fait des sorties, donc on a sorti un petit livret avec toutes les sorties dans le Morbihan et au niveau Bretagne aussi. Donc il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Et donc là, ça permet d'apprendre vraiment directement sur le terrain, à apprendre à reconnaître les oiseaux aussi bien à la vue qu'au chant.
Et oui, à ce propos, est-ce qu'il y a certaines espèces, certains oiseaux qu'on peut voir passer dans son jardin, mais qu'on peut confondre entre eux?
Alors, il y a quelques espèces qui ne sont pas évidentes et on le remarque justement avec la remontée des données sur Faune Bretagne, que les gens se trompent régulièrement. Donc, il y a entre le moineau friquet et le moineau domestique, donc c'est deux moineaux qui se ressemblent un peu. On a une grosse remontée des données de moineau friquet en période de comptage oiseaux des jardins, alors que l'espèce a quasiment disparu de Bretagne. Alors, avant, elle était quasiment sur tout l'ensemble de la région. Et maintenant, on la retrouve plus que quelques noyaux en Ille-et-Vilaine. Donc c'est le genre de confusion qu'on a régulièrement. Entre les mésanges aussi, donc il y a plusieurs espèces de mésanges. Entre la mésange nonnette, la mésange noire et la mésange charbonnière, il y a quelques erreurs aussi. Entre les griffes, c'est pas toujours évident, la griffe draine et la griffe musicienne. Donc là encore, on a fait une formation en visioconférence, Covid oblige, et une conférence d'une heure et demie où on a expliqué vraiment attention aux pièges entre les différentes espèces d'oiseaux. Donc ça avait eu un beau petit succès avec plus de 20 participants et on le refera sûrement au cours de l'année parce que ça, on voit que les oiseaux des jardins, ça plaît vraiment aux gens et ça touche beaucoup de monde. Donc on va essayer de, de refaire de ce genre de formation.
Et est-ce que vous êtes en recherche de bénévoles ou est-ce que les rangs sont déjà bien fournis ?
Alors on est toujours en recherche de bénévoles motivés, donc il y a plusieurs profils de bénévoles, donc on a des bénévoles qui sont surtout sur les stands lors de fêtes de la nature ou ce genre d'événements. On a des bénévoles qui construisent des nichoirs pour aller les disposer, donc là on a disposé deux nichoirs pour les frais des clochers dans les hangars que les agriculteurs nous prêtent. On vient poser des nichoirs à Chouette et Frais sous l'accord des agriculteurs. Donc cette chouette qui se nourrit de beaucoup de mulots, de campagnols, est généralement bien vue par les agriculteurs. Donc on n'a pas trop de mal pour poser des nichoirs. On a des bénévoles qui participent au comptage, donc qui sont plus spécialisés dans les papillons, dans les oiseaux, donc qui viennent nous aider sur les refuges aussi. Et là, on a un bénévole très actif vers Saint-Jean-Brévelay qui nous trouve des chantiers mares. Donc, c'est des mares qui sont en train de se refermer. Et là, dimanche prochain, on refait un chantier mare. Donc, avec une dizaine de bénévoles, on vient réouvrir la mare pour favoriser la présence des amphibiens, des libellules et autres habitants de la mare.
Et dans quelques jours, quelques semaines, une enquête va être lancée, une enquête pour laquelle vous cherchez justement des bénévoles ?
Oui, c'est ça. Du coup, on va lancer l'enquête Chevêche d'Athéna. Donc, c'est un petit rapace nocturne aux yeux d'or qu'on reconnaît assez facilement à son chant. Donc, sa répartition est assez mal connue dans le Morbihan, notamment dans les terres. Donc, on fait un appel aux bénévoles pour parcourir la campagne. Donc, le protocole est assez simple. C'est sur un carré de 2 km sur 2 km. Les bénévoles vont faire des points d'écoute avec un système de repasse. Donc, c'est avec une petite enceinte ou avec son téléphone, on met le chant de la chevêche d'Athéna et on attend de voir si elle nous répond. Parce que du coup, c'est un oiseau territorial qui va réagir quand on va mettre son chant. Et donc pour cela, on va avoir une stagiaire en master qui arrive au mois d'avril pour travailler un peu sur toutes les données qu'on va récolter et voir la répartition donc de cette chevêche. Ça commence mi-février et on va faire une formation du coup probablement en visioconférence pour apprendre à reconnaître le chant des différents types d'oiseaux nocturnes. Parce que du coup en Bretagne, on a le hibou moyen-duc, la chouette hulotte, les frais des clochers et la fameuse chevêche d'Athéna. Et
oui, justement, on a parlé de comment reconnaître les oiseaux. Évidemment, le son, les chants sont très importants dans votre travail.
Oui, c'est un métier où il faut connaître quasiment tous les chants d'oiseaux, notamment au printemps quand tous les arbres vont avoir leurs feuilles. Là, c'est le pinson des arbres qui chante tout en haut de son arbre, on ne va plus du tout le voir. Donc si on ne connaît pas le chant du pinson des arbres, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour deviner qu'il est là. Et donc tous les inventaires en milieu boisé, il faut vraiment connaître le chant des oiseaux pour pouvoir les repérer. Après, c'est valable aussi pour les orthoptères, donc les criquets et les sauterelles. On connaît quasiment tous les chants des espèces de Bretagne pour permettre de les reconnaître dans les pelouses, dans les friches, où c'est pas toujours évident de les voir.
Et est-ce que vous fonctionnez avec, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais des pièges sonores, des micros que vous installez sur une période plus ou moins longue et qui vous permet de savoir qui est passé par là ?
Alors pour le travail, on ne le fait pas, mais moi, à titre personnel, du coup, on est plusieurs ornithologues à le faire. Ça se démocratise de plus en plus en France et aussi en Bretagne. Donc on met des enregistreurs à tourner pendant plusieurs nuits d'affilée et ça permet de voir ce qui a migré pendant la nuit. Et donc on fait plein de découvertes, donc c'est un procédé assez récent. Et là on a découvert que le bruant ortolant, donc c'est un bruant qu'on pensait très très rare en Bretagne, et on arrive à plusieurs dizaines de données courant du mois d'août, parce qu'il passe en migration en fait en Bretagne, mais uniquement de nuit, donc on ne le repérait pas du tout. Et donc ça ouvre une porte à plein de découvertes. Également on peut poser le micro dans des marais un peu inaccessibles et le laisser tourner pendant plusieurs jours. Et après avec l'analyse des bandes son, on peut découvrir qu'il y a eu une marouette ponctuée, donc c'est un petit oiseau des roseaux qui est assez difficile à détecter et qui chante de nuit surtout.
Et est-ce que vous pensez que ça peut faire partie des évolutions de vos métiers, d'avoir effectivement du matériel, notamment d'enregistrement, installé un petit peu partout avec peut-être des systèmes beaucoup plus en lien avec l'automatisation, l'informatique, etc.
Alors ça existe déjà plus ou moins pour les chauves-souris, donc on met des boîtiers et ça détecte, c'est un micro qui détecte les ultrasons Et après, il y a un logiciel qui nous oriente et qui dit, ça c'est plutôt une pipistrelle commune, ça c'est une sérotine, ça c'est... Donc pour les chauves-souris, ça existe plus ou moins. Pour les oiseaux, c'est en cours de développement, notamment avec la LPO à Rochefort. Après, ça ne vaudra jamais l'oreille d'un ornithologue expérimenté, donc j'ai pas peur de perdre mon métier à cause des machines. Mais c'est vrai que c'est une grande avancée et ils commencent même à sortir des applications qui reconnaissent les chants d'oiseaux. Donc on fait écouter au téléphone l'oiseau qui est en train de chanter, il nous propose une liste d'espèces. Donc ça aide aussi pour débuter l'ornithologie.
Alors justement, ce Shazam des oiseaux, c'est fiable ?
C'est plus ou moins fiable. C'est vrai que c'est bien de s'y connaître et c'est encore en développement. Donc il faut vraiment prendre le résultat avec des pincettes et vérifier toujours. Comme la cueillette des champignons, il vaut mieux vérifier plus d'une fois avant d'affirmer que telle espèce est présente.
Corentin Morvan, on a pu parler des actualités de la LPO Bretagne, de la Ligue de protection des oiseaux, notamment ici à Locminé où on se trouve. Si on revient un peu à l'origine de la LPO, il y a donc plus de 100 ans, en début d'entretien, on parlait de ce macareux moine. Qu'en est-il actuellement pour cette espèce ?
Alors le macareux moine qui ne niche quasiment plus que aux sept îles. Alors il nichait un petit peu en Bête-Morlaix et à Ouessant. Il a disparu de ces deux autres endroits. Donc en France, on le retrouve plus qu'aux sept îles. Et les populations sont plutôt stables. Donc depuis que la réserve a été créée et qu'on travaille en faveur de sa protection.
On a aussi évoqué quelques espèces dont le sort pouvait vous préoccuper. Est-ce qu'au contraire, il y en a certaines pour lesquelles on a de quoi être optimiste, voire enthousiaste ici en Bretagne ?
Alors il y a plusieurs espèces qui avaient disparu ou qui se portaient très mal, comme le grand corbeau ou le faucon pèlerin. Donc ils sont en train vraiment de réinvestir toute la Bretagne, toutes les carrières et les bords de côte. Du coup ça niche en falaise et en carrière. Mais on a aussi des nouvelles espèces du coup qui viennent du sud, de l'Espagne, de l'Afrique. Donc c'est le cas de l'héron garde-bœuf ou de l'élanion blanc. Donc c'est un rapace assez magnifique et qui est en train de coloniser toute la France. Et là, il y a quelques couples nicheurs en Bretagne et c'est un peu un scoop parce que c'est vraiment tout récent. Donc là, au niveau national, il y a un atlas des oiseaux de France qui débute au printemps. Sur 5 ans, et donc ça va permettre aussi de remettre à jour toutes ces cartes de répartition. Donc là encore, on a créé un groupe Atlas au sein de la LPO Morbihan, donc c'est pour un peu motiver les bénévoles à prospecter certains secteurs, à rechercher des espèces pour cet Atlas des oiseaux de France.
C'était Corentin Morvan, chargé d'études pour la LPO Bretagne. Vous pouvez contacter la Ligue de protection des oiseaux par mail à morbihan@lpo.fr ou via la page Facebook Groupe LPO Morbihan LPO Bretagne.
Merci bon Dieu, gardez comment la misère finit pour nous. Merci bon Dieu, gardez tout ça la nature portée pour nous. Merci bon Dieu, gardez tout ça la nature. Merci bon Dieu, gardez comment la misère est finie pour nous. La pluie tombée, maïs poussé, tout le monde qui grand goût, prend les manger. On nous danse grand goût, on nous danse pétro. Papa bon Dieu, digne, c'est la misère finie. Papa bon Dieu, digne, c'est la misère finie pour nous. Papa bon Dieu, digne, c'est la mise à finir pour.